France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il s'agit désormais de la loi française. Les principaux sites pornographiques doivent instaurer des dispositifs de vérification d'âge effectifs afin d'empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Mais un débat persiste entre nos deux invités du jour. Débat sur la nécessité d'interdire toutes les pornographies à tous les mineurs. Alors l'interdiction stricte de la pornographie aux mineurs est-elle justifiée? Ces deux invités ce soir, la première c'est Céline Pic. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme, co-autrice du rapport intitulé « Porno-criminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique », un rapport rendu en septembre 2023. Face à vous, Arthur Vuatou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord et co-auteur avec Yael Amselemenghi du livre intitulé « Les jeunes, la sexualité et Internet », un ouvrage sorti en 2020 aux éditions Les Pérégrines. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et voilà ce qu'écrivent un collectif de chercheurs dans une tribune parue dans le journal Le Monde récemment. L'idée que la pornographie constitue un danger pour les mineurs est elle-même discutable. Arthur Vuatou, parmi les signataires, il y a notamment votre co-autrice Yael Amselemenghi. Votre position sur ce sujet ?
Alors c'est une question en fait qu'on traite souvent en sociologie sous l'angle d'un concept de panique morale. Ça, on parle de panique morale pour parler du fait que la sexualité des jeunes et notamment le rapport à la pornographie a été érigé dans les dernières années comme à la fois priorité de l'action publique dès lors qu'on parle des risques sexuels que rencontrent les jeunes, notamment les risques de perpétuation des violences, de reproduction des violences, etc. Et puis plus généralement, on rencontre en fait des inquiétudes qui sont des inquiétudes parentales qui peuvent être d'ailleurs en partie légitime hein, sur les dangers auxquels s'exposent les jeunes via ces consultations de sites pornographiques. Mais je pense qu'il y a une question à savoir, est-ce que vraiment la pornographie est ce sur quoi on doit focaliser l'attention quand on parle des mineurs, sachant que c'est un phénomène en fait beaucoup plus vaste qui ne concerne pas que les mineurs, bien sûr, et surtout que la pornographie elle est plurielle et qu'en fait on englobe beaucoup de choses et qu'on a parfois tendance aussi à mêler des enjeux qui concernent la protection des enfants, celle des adolescents, celle des jeunes adultes, et en fait on parle pas tout à fait de la même chose à chaque fois.
Vous dites panique morale, pourtant c'est très concret les effets de la pornographie sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes. Ça a des effets sur leur santé mentale, sur la façon dont ils appréhendent la sexualité, sur les violences sexistes et sexuelles également. C'est pas seulement quelque chose de l'ordre de la panique morale.
Alors la question des effets de la pornographie, elle est très compliquée à attester. Alors on se doute bien que l'exposition à la violence peut générer chez certains individus, et voilà, et on le voit sur d'autres phénomènes, pas que sur la pornographie, en fait des effets potentiellement d'entraînement, etc. Malgré tout, on a peu d'éléments qui attestent de causalité systématique sur, en réalité, les effets de la pornographie. Je me situe du côté de ce que j'ai pu mener comme recherche, hein, qui sont des recherches qualitatives auprès d'adolescents sur leur visionnage et sur les effets de ces visionnages. Et ce qu'on voit notamment dans ces enquêtes-là, en réalité, c'est qu'on a un impact, alors qu'on a pu, qui est souvent attesté sur les normes corporelles, notamment à l'adolescence. Et ça, au même titre en fait que les réseaux sociaux par exemple, et notamment les images véhiculées sur la minceur, etc. Et je pense qu'il y a un continuum de ce côté-là, bien sûr. Et après, je pense qu'au-delà de ça, il faut encore travailler cette question, mais moi, c'est clairement pas la question de laquelle je pars dans mes travaux.
Céline Pic, une réaction au-delà, oui. Est-ce que même pour vous, j'allais dire, l'idée même qu'il existe un danger, je me permets de poser une question,
bien sûr.
Ce danger-là est discutable selon vous?
Je discute face à un chercheur et en fait, aujourd'hui, je vais vous citer un certain nombre de chiffres qui viennent tous d'articles de recherche à la scientificité indiscutable. Aujourd'hui, et j'ai écrit un rapport de 250 pages qui recense des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques qualitatifs et quantitatifs qui démontrent un lien de causalité clair, avec un certain nombre, en particulier, je cite une méta-analyse. Donc une méta-analyse, c'est un ensemble d'articles scientifiques qui vont tous dans le même sens.
Une agrégation de recherche,
c'est-à-dire que plus on consomme de la pornographie, plus on s'imprègne de culture du viol, de stéréotypes sexistes, mais aussi racistes et pédocriminels, et de façon extrêmement logique, puisque les violences sexuelles, sexistes et sexuelles sont légitimées par cette idéologie sexiste, et ben plus vous êtes susceptible d'être violent sexuellement. Et donc il y a un chiffre, encore une fois, d'une étude anglaise, aussi qui est une étude qualitative, publié dans un article de recherche qui démontre que les gros consommateurs de pornographie ont 3,3 fois plus de chances d'être violents sexuellement. Et de l'autre côté, les femmes et les filles qui consomment de la pornographie ont 4 fois plus, ça c'est une étude espagnole qui est citée dans mon rapport, 4 fois plus de chances d'être victimes de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? Parce que la pornographie entretient une confusion entre sexualité et violence sexuelle et érotise cette violence sexuelle. Et là aussi, les chiffres sont là en fait. Donc je suis vraiment désolée, mais j'ai été extrêmement touchée par cette tribune, parce que cette tribune, qui est une réponse à la tribune que nous avons écrit, nous, associations féministes...
Qui est une réaction à votre texte, absolument.
Qui était bien sûr engagée pour dénoncer la violence dans la pornographie, ne cite lui aucun, cette tribune ne signe aucun chiffre. Donc il y a des affirmations absolument péremptoires, comme l'idée que la pornographie constitue un danger est elle-même discutable, alors qu'aujourd'hui on a des études, encore des études, encore des études, encore des chiffres, et vraiment, c'est vraiment un déni de réalité de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de causalité entre consommation de pornographie et augmentation des violences sexistes et sexuelles. C'est tout simplement faux.
Arthur Vuattoux, comment vous réagissez à ces chiffres ? C'est vrai que quand on vous écoute l'un et l'autre, l'un après l'autre, le premier nous dit qu'il n'existe pas d'études qui prouvent des liens de causalité, et la seconde semble nous démontrer l'inverse.
Bah, la question, c'est juste sur cet enjeu de la causalité en réalité. Parce que ce que beaucoup d'études montrent, c'est, vous avez parlé des gros consommateurs de pornographie, et c'est vrai qu'il y a des études qui se sont concentrées notamment en psychologie sociale, sur
des
addictions, etc. Oui, non, mais et après, on voit des corrélations, pour le coup, avec d'autres pratiques, l'exposition à la violence, le fait d'avoir éventuellement une sexualité plus précoce, etc. etc. Et je pense que, bien sûr, qu'il y a des clusters de population avec des prises de risques multiples, etc. Et je suis loin de minorer, enfin mon objectif n'est pas du tout de minorer l'impact potentiel de la pornographie sur certains jeunes, etc. C'est juste de resituer ça dans un contexte un peu plus global. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Yael Amselem Maghi, et encore une fois, voilà, je ne suis pas un auteur de la tribune, et donc je n'endosse pas tous les propos de la tribune, mais c'est vraiment de comprendre l'économie globale des usages sexuels d'Internet des jeunes, c'est-à-dire de regarder ce qui, aux côtés de la pornographie, étaient les autres sources d'information, les autres ressources que les jeunes allaient chercher. Et quand on regarde les choses de ce point de vue-là, on se rend compte que la pornographie, elle existe, bien entendu, qu'elle a sans doute des effets, mais que par contre, elle est pour beaucoup de jeunes, finalement, quelque chose d'assez, secondaire par rapport à d'autres dimensions de leur expérience, de l'entrée dans la sexualité.
On va revenir là-dessus. Je note quand même que vous dites que la pornographie a sans doute des effets. Encore une fois, les études semblent démontrer l'inverse. Céline Pic, juste sur ce que disait un peu plus tôt Arthur Vuattoux, la pornographie n'est pas à appréhender d'un bloc. Il existe une pluralité de pornographie et au fond, interdire l'accès à toutes les pornographies, ce serait une erreur. Quelle est votre position sur ce sujet ?
C'est extrêmement simple. C'est pour ça que le rapport que j'ai coécrit s'appelle « Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». C'est un argument absolument fallacieux qu'on m'oppose de façon assez systématique. On dit « mais il y existerait une pornographie éthique, féministe, etc. ». Alors il y a des productrices qu'on cite toujours et qu'on met en avant qui produiraient cette pornographie. Une est très souvent citée, elle a une vingtaine de films à son actif. Les quatre plus grandes plateformes pornographiques aujourd'hui qui dominent le marché de la pornographie, c'est 20 millions de vidéos. Donc 20 vidéos, 20 millions de vidéos. Moi, j'ai pas envie de parler de ces 20 vidéos pseudo-féministes ou pseudo-éthiques de cette productrice espagnole qu'on met toujours en avant. Moi, je parle de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les plateformes, qui est gratuit, librement accessible aux enfants, et qui est cette pornographie qui est aujourd'hui consommée massivement dès l'âge de 11 ans, puisque dès l'âge de 11 ans, 50% des garçons consomment régulièrement de la pornographie en allant sur ces grandes plateformes que je vais m'épargner de citer, mais en fait, elles sont 4 ou 5 à dominer le marché. Et c'est ça qui nous intéresse parce qu'elles représentent 99,99% de ce qui est consommé aujourd'hui. Donc, on peut toujours faire diversion en invoquant cette pornographie soi-disant féministe ou soi-disant éthique, mais en fait, c'est vraiment, je dirais, comme mettre un brin d'herbe pour essayer de cacher la forêt en flammes.
Arthur Vatou, cette diversité des pornographies que vous décrivez, elle est théorique ou dans le fond elle est quand même accessible pour ces jeunes quand on l'a aussi, quand on regarde les chiffres, 99,9999%.
Non mais là-dessus on est d'accord, hein. On est d'accord que quand on enquête auprès des jeunes, qu'on leur demande quels sont leurs usages de la pornographie, sur quels sites ils vont, bien sûr ils vont sur les médias mainstream, ils vont sur ces plateformes et effectivement ils vont voir en plus sur ces plateformes-là les vidéos les plus consultées, les vidéos mainstream, etc. Parce qu'on pourrait dire que sur les plateformes il y a différentes représentations de la sexualité. Mmh. Mais bon, ils vont voir principalement ces vidéos-là. Ce sur quoi moi j'insiste, et encore une fois c'est pas pour minorer toute cette industrie et les ravages de cette industrie, etc. Je veux vraiment pas être sur ce terrain-là. C'est juste de dire que quand on interroge des jeunes, on a tendance aussi à les percevoir parfois de manière un peu trop, enfin, comme des sujets passifs, en fait, face à une production qui s'imposerait à eux, à cette violence qui s'expose parfois auprès d'eux. Et en fait, quand on les interroge, ils nous le disent parfois. Ils nous disent, bien sûr, j'ai été choqué par des images. Et il y a des jeunes, des enfants qui peuvent être choqués par des images. Ça, c'est bien sûr le cas. Mais aussi, on a voulu mettre en avant, nous, le fait qu'il y avait aussi une réflexivité de ces jeunes face à ces contenus.
Ils sont conscients de voir de la violence, du racisme parfois, de la maltraitance souvent ?
Alors le racisme, il n'est pas forcément toujours si... Il met du temps à être perçu, parce que là aussi, il faut une lecture du monde social. Moi, j'ai tendance à toujours rappeler qu'il y a deux enjeux, et je pense qu'il faut vraiment centrer le regard là-dessus quand on parle des jeunes. L'éducation à la sexualité, évidemment, l'éducation aux médias aussi, c'est-à-dire effectivement comprendre comment sont créer, produire ces représentations culturelles-là. Après, oui, sur le côté être conscient qu'il s'agit de vidéos, que ces vidéos sont coupées, sont tournées, qu'il s'agit d'acteurs, d'actrices, etc. Globalement, ils le sont. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que certains ne vont pas être tombés dans une forme de confusion, etc.
Je voudrais vous faire entendre des témoignages et je vous ferai réagir ensuite, Céline Pic, des témoignages d'adolescents, justement, qui nous expliquent la façon dont ils appréhendent ces vidéos. Un extrait diffusé sur France 2 dans l'émission Je t'aime, etc.
Moi, je pense que, en fait, elle est pas forcément trop visible ou trop tôt, etc.
Mais
en fait, le problème, c'est surtout comment elle est faite. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dedans, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que, justement, vu qu'on a que ça pour s'identifier, au final, on va reproduire ça, alors qu'en fait, c'est pas ça la vie. Ça peut nous donner l'idée que c'est comme ça qu'on fait, que c'est cet enchaînement-là d'actes sexuels qu'il faut faire et pas un autre, et qu'il n'y a pas d'autres moyens, et que c'est vraiment ça, alors que c'est pas du tout le cas.
Ça m'est déjà arrivé. Mais genre, j'étais vraiment plus petit, je devais avoir 10 ans. J'avais pas envie de regarder ce genre de choses et j'étais petit et ça me choquait pas, mais c'était pas un truc que j'aimais regarder. Ça me dégoûtait vraiment. Je pense que quand tu vas sur un site porno, t'as la volonté d'y aller, tu vois, déjà. Alors que là, t'es là. Genre, ils regardent un manga, tu vois, genre, aucun rapport. Ils regardent un manga, bang, t'as des trucs auxquels t'as pas envie d'assister.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites et expliquées en creux, entre les lignes, d'une manière aussi directe dans ces propos. Mais est-ce que vous percevez, Céline Pic, une forme de réflexivité dans les propos de ces adolescents de 15 et 16 ans ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est le témoignage sur la première expérience. Parce que ça est aussi démontré dans les études, c'est que la première exposition, elle est souvent involontaire. À 10 ans, 11 ans, vous commencez à avoir un téléphone portable. Aujourd'hui, la pornographie, elle est consommée sur téléphone portable. Et on a des témoignages de choc. De choc parce que les images sont aujourd'hui d'un sadisme extrêmement intense au vu des pratiques. Aujourd'hui, on a des doubles ou triples pénétrations, des gangbangs. Ce sont des pratiques réellement sadiques pour lesquelles la maturité psychique des enfants n'est pas prête. Et c'est pour ça que nous défendons aujourd'hui l'application effective du contrôle d'âge. Nous avons collectivement, nous, société, eu un devoir de protéger ces enfants, effectivement, d'images qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre et qui participent, effectivement, à l'augmentation de la culture du viol. Donc, bien sûr qu'il y a une forme de réflexivité, mais... Je veux dire, l'argument qui a été aussi avancé sur c'est des acteurs et sur la façon dont ces images sont produites, c'est aussi cette déréalisation des adolescents et une façon aussi de se protéger. Moi, j'ai envie aussi de rappeler quelque chose de très simple. Les actes de violence, les actes de violence, les étranglements, les gifles, ne sont pas simulés. C'est de la violence filmée. ce ne sont pas du jeu d'acteur, et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, puisque j'accompagne aujourd'hui des survivantes qui ont été violées sur des tournages pornographiques et qui vont témoigner à un procès pour viol, proxénétisme et traite des êtres humains. Ce n'est pas du cinéma. Et ça, je pense que ce qui est certain, c'est que certains enfants, choqués par la violence des images, essayent de mettre de la distance vis-à-vis de ces images en imaginant que ce n'est pas réel. Moi, j'ai envie de leur dire, et j'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices, oui, la violence est réelle. Elle n'est pas simulée comme dans le cinéma. Ce sont des femmes qui prennent des coups, qui sont étranglées, qui sont étouffées, qui sont frappées et qui ont des conséquences psychotraumatiques et physiques des violences qu'elles subissent. Et je voudrais vraiment, ça me tient énormément à cœur, puisque dans nos associations et parmi les signataires de cette tribune, nous sommes nombreux et nombreuses à accompagner ces femmes qui ont vécu des violences absolument insoutenables dans ces tournages. Donc, moi, au-delà de la réflexivité, je vois surtout des jeunes, mais aussi des adultes, qui essayent de mettre de la distance et qui essayent de croire que derrière cet écran, ce serait qu'une mise en scène. Ce n'est malheureusement pas une mise en scène. Et j'aimerais qu'on ait des fois aussi de la considération pour ce que vivent ces femmes dans l'industrie pornographique.
C'était important de le dire. Arthur Vuattoux, est-ce que justement, dans cet exercice de réflexivité, il y a aussi une variable d'âge, hein. De toute façon, on n'a pas la même réflexivité quand on a 16-17 ans que lorsqu'on a 10 ou 11 ans. Mais tout de même, cette réalité qui est décrite à l'instant par Céline Pic, le fait que ces violences, elles sont effectivement mises en scène, elles sont justement pas mises en scène, elles sont effectivement effectuées. Est-ce qu'elles en ont conscience ?
Alors je pense qu'effectivement, l'âge compte beaucoup, et j'allais dire plus le genre peut-être encore. Parce que nous, on posait dans notre recherche avec Yael Amselemenghi systématiquement la question, à la fois de savoir comment ils imaginaient la production de ces vidéos, et qu'est-ce qu'ils voyaient dans ces vidéos en termes de construction de la sexualité, etc. Et on leur demandait aussi s'ils avaient quelque part un peu conscience de l'industrie, de ce qu'il y avait derrière, de finalement ces acteurs, acteurs au sens d'acteurs sociaux, là, de la pornographie. Et c'est intéressant parce que, alors autant, bien sûr, il y a l'avancée en âge, évidemment, les enfants de 12 ans peuvent percevoir que il y a montage, que etc. Ils vont pas comprendre forcément qu'il y a derrière cette industrie. Ça arrive avec le temps parce que malgré tout, heureusement, il y a à la fois le débat public sur ces questions. Il y a quand même des choses qui sortent. Il y a les procès dont vous parlez, et je pense que ça commence quand même un petit peu à infuser. Et par contre, ce qu'on voyait très nettement, c'est que la réflexivité des filles n'était pas celle des garçons, et que notamment elles perçoivent beaucoup plus rapidement, en tout cas, cette dimension-là de violence réelle, potentielle sur ces actrices. Là, on parle du porno hétérosexuel, bien sûr. Après, il y a d'autres enjeux aussi sur les autres formes de porno.
Un autre extrait de la tribune paru dans Le Monde qui répondait au texte Céline Pic que vous avez signé avec d'autres et qui lui aussi a été publié dans Le Monde, je le cite. Contrairement à ce qu'affirme une tribune publiée dans Le Monde, donc la vôtre, la pornographie n'est pas la première ni la principale source d'éducation à la sexualité pour les adolescents, ni même pour les jeunes. Fin de citation. Il y a aussi une controverse entre vous, entre ces textes justement, sur est-ce que la pornographie est le premier vecteur d'éducation en matière de sexualité. Votre position, Céline Pic, sur
Alors,
ce sujet?
Malheureusement, la tribune qui répond à la mienne est un parfait contresens. Je suis désolée de vous le dire. Mais effectivement, quand on dit la première, c'était en termes d'âge. D'ailleurs, la phrase qui suit, c'est 51% des garçons de 11-12 ans. Et on me répond que dans une enquête sur les 18-29 ans, effectivement, les partenaires sont source d'informations. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas en termes d'importance, on parle en termes d'âge. La première vision de la sexualité en termes d'âge, c'est à 11-12 ans. Et on n'est pas encore dans la sexualité à 11-12 ans. On est bien, bien avant. Et les premières images de sexualité, ce sont les images pornographiques, qui, je rappellerai quand même l'étymologie de pornographie, parce que ça, c'est important aussi de le dire, ce n'est pas la représentation de la sexualité qu'ils sont en train de voir. Porn, graphie, représentation, certes, mais porno vient du grec, et porn, c'est le terme grec pour dire esclave sexuel. C'est les esclaves sexuels qui, à l'époque de l'Antiquité, étaient les plus avilis, les plus violentés. Donc, la pornographie, étymologiquement, est la représentation de l'esclavage sexuel des femmes. Si c'était la représentation de la sexualité, ça s'appellerait sexographie. Et ce qui est absolument, effectivement, dramatique, qu'effectivement, les premières images de sexualité, moi je dirais plutôt de violence à l'égard des femmes et des filles, ce sont ces images pornographiques à l'âge de 11 ans. Donc là, il y a un contresens total de ce que nous avons voulu dire, puisqu'on parlait de l'âge de la première exposition. Et heureusement, quand vous rentrez dans la sexualité, l'âge moyen du premier rapport sexuel, c'est aujourd'hui 17 ans, ben, bien entendu, vous avez comme source d'information les partenaires sexuels, etc. Mais attention, et je vais conclure là-dessus, les partenaires sexuels peuvent être, eux aussi, imprégnés par les scripts pornographiques. Et là aussi, études scientifiques sourcées, sorties dans des articles de recherche, une étude en Angleterre démontre que 38% des femmes jeunes entre 18 et 30 ans ont fait l'expérience de la strangulation lors d'un rapport sexuel. Alors, je suis pas là pour juger les pratiques sexuelles. Si elles ont envie d'être étranglées lors d'un rapport sexuel, soit. Mais par contre, ce que démontre l'étude, c'est que 42% d'entre elles avaient été forcées et contraintes par leur partenaire qui réclamait de la strangulation alors qu'elles ne le souhaitaient pas. Donc, la pornographie, effectivement, où on voit énormément de strangulation en particulier, impose une nouvelle norme sexuelle et même par son partenaire, même si vous ne consommez pas de pornographie quand vous êtes une femme, dans la sexualité, vous pouvez avoir un partenaire qui lui en consomme et qui va vous demander des pratiques avec insistance. Et on sait qu'on est dans une situation, dans une société inégalitaire où la capacité pour les femmes à dire quel est leur désir sexuel est compliquée, à vous voir imposer des pratiques sexuelles que vous ne désirez pas. C'est le cas de la strangulation et c'est le cas de plein d'autres pratiques sexuelles qui sont inspirées de la pornographie et qui passent par l'intermédiaire du partenaire sexuel.
Arthur Vatou, dans vos recherches, dans vos entretiens, à quel point la pornographie aujourd'hui dessine la norme en matière de sexualité ? Qu'est-ce que vous observez dans ce domaine ?
Alors, sur la norme, je vais y revenir rapidement, mais juste pour répondre, je pense que, et on sera peut-être d'accord sur ce point, en fait, la pornographie, elle remplit un vide. Clairement, quand on interroge des adolescents, ils nous expliquent très souvent que, bah oui, ils sont allés vers la pornographie, qu'ils associent à une recherche d'informations sur la sexualité. Alors, évidemment, ça questionne sur ce qu'on entend par information, etc.
Pour bien comprendre, ils vont sur un site pornographique pour apprendre comment fonctionnent les relations sexuelles.
Pour un certain nombre d'entre eux, ils nous expliquent, par exemple, que, on leur a beaucoup. Alors souvent, ça part en fait des défis. Alors ça vaut beaucoup pour les garçons dans les sociabilités masculines. Sur en fait, on entend parler, on doit savoir ce qu'est telle ou telle position sexuelle, par exemple. Donc on va voir et l'endroit où on va pouvoir voir ce qu'est telle ou position sexuelle, c'est évidemment ces sites porno. Et c'est souvent à ça en fait que reviennent ces premiers usages à 11, 12, 13 ans. Et ça, évidemment, les jeunes le disent, mais en même temps, ils disent qu'ils ne le souhaitent pas, au sens où ils auraient préféré qu'on leur apprenne les choses différemment. Peut-être, potentiellement, que tout ne soit pas basé dans leur sociabilité de garçon sur le fait de savoir avant les autres, de savoir mieux que les autres, etc. Mais la question, c'est celle des alternatives qu'on leur propose. Et je pense que là, vraiment, il y a un sujet, alors ça fait des années que ce sujet est sur la table, mais sur l'éducation à la sexualité, on y revient toujours, c'est un peu un marronnier. Mais en fait, une éducation à la sexualité, pour le coup, qui ne parvient pas à donner suffisamment de matière ou suffisamment d'éléments. Et alors, juste là, je pense qu'il faut aussi parler des contrefeux, parce qu'autant il y a cette industrie de la pornographie, etc., mais il y a aussi ceux qui combattent l'éducation à la sexualité. Et je pense qu'on ne peut pas traiter un sujet sans traiter l'autre.
On va y revenir évidemment, mais quand même, j'insiste sur la norme. À quel point est-elle dessinée par la pornographie aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je parlais tout à l'heure des normes corporelles. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait, nous, dans nos entretiens, notamment avec les adolescentes, et un peu les adolescents aussi, bien sûr, sur le fait que la pornographie montre des corps. Et alors, autant, quand on parle de réflexivité, les jeunes vont nous dire « je sais bien que ça se passera pas comme ça, mon premier rapport, je sais bien que ce sera pas exactement comme cette vidéo, etc. » Par contre, sur le corps idéal, le bon corps, le corps désirable, etc., là, on a clairement des formes de normalisation, c'est-à-dire typiquement autour des enjeux d'épilation pour les filles, par exemple, la norme d'épilation, etc., qui sont véhiculées beaucoup par le porno, chez des garçons, des normes de performance, etc. Bon, toutes ces choses-là, c'est des poncifs, mais on sait qu'on le voit. Après, voilà, ça ne joue pas forcément sur la norme des pratiques, etc. Et souvent, surtout, et ça, on l'a eu dans beaucoup de récits, notamment de jeunes garçons, il y a l'aspect désillusion, alors un peu attendu, mais au moment des premiers rapports. C'est-à-dire, en fait, de dire, bon, il y a un moment où on a nos premiers rapports sexuels, puisque nous, on les voyait un petit peu après leur rapport sexuel, leur premier rapport sexuel, et, eh bien, il y a en fait la réalité qui s'impose à eux, et souvent, ben, en fait, une forme d'éducation ou de, voilà, en tout cas, de confrontation à la réalité par leur partenaire.
Le témoignage d'une lycéenne, elle s'exprimait en juin 2025 dans l'émission Quotidien.
Maintenant, on dit que j'ai un esprit tordu et que je connais des choses que je ne devrais pas à mon âge, et ben, c'est à cause de la pornographie, du coup. Avant, j'y regardais tous les jours, vers le collège, mais maintenant je regarde plus tous les deux semaines ou une semaine, une fois par semaine.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être dépendante au porno ?
Un peu, oui. Parce que dès que je m'ennuyais, je voulais faire ça. Sauf que ma mère, elle a déjà cramé sur mon ordinateur que j'ai cherché des trucs. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Elle m'a mis un contrôle parental. Du coup, j'ai utilisé Chrome. Parce que j'étais sur Safari, en fait. On m'a dit aller onglet privé. Et du coup, j'avais fait sur onglet privé. Voilà.
Il faut dire aussi, Céline Pic, qu'il y a une dépendance à la pornographie que l'on va devoir assouvir de plus en plus fortement en allant vers des contenus de plus en plus violents, de plus en plus racistes aussi, de plus en plus douloureux pour les actrices qui s'engagent dans ce type de film. Comment on outille justement des grands consommateurs de pornographie pour leur permettre de faire face à cette addiction ?
Alors, il y a un certain nombre de chercheuses qui travaillent à l'hôpital. J'en citerai une qui s'appelle Maria Hernandez, qui travaille sur ces problèmes d'addiction qui fonctionnent exactement comme d'autres types d'addiction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un shoot de dopamine qui va nécessiter effectivement une consommation pluricotidienne. C'est à ce moment-là qu'on parle d'addiction. C'est quand il y a plusieurs fois par jour de la consommation de pornographie, avec vraiment des désirs irrépressibles d'avoir des contenus aussi de plus en plus violents pour avoir la même jouissance. Parce que je rappelle que la pornographie, avant tout, c'est pour se masturber et pour pouvoir jouir. Mais la jouissance n'est atteignable qu'à des doses supérieures de violence. Et selon les estimations d'études scientifiques, notamment de celle, la thèse de Maria Hernandez, on estime que ça concerne environ 7%. Aujourd'hui des jeunes, donc ce n'est pas certainement pas la majorité, mais on a cette dépendance, et puis on a des problèmes d'érection, en particulier chez les garçons, puisque cette confrontation à la réalité, elle est violente, et que clairement, quand vous vous retrouvez face à votre petite amie, en fait, il y a un hiatus tellement énorme entre la jouissance procurée par des images de violence sexuelle dans la pornographie, et puis ce que vous avez envie, ou ce que vous êtes en capacité de faire à votre petite amie, c'est énorme. Pour les filles, c'est un petit peu différent. Et là, comme c'est un témoignage de fille, j'aimerais quand même souligner ça, parce que ça aussi, ça a été démontré, expliqué par des psychotraumatologues. C'est l'effet dissociatif des images de violence sexuelle. Ça, c'est Muriel Salmona, spécialiste des psychotraumas, qui en parle très bien. D'avoir ces images extrêmement violentes et sadiques permet de se remettre dans un état dissociatif pour des femmes et des filles qui ont été auparavant victimes de violences sexuelles dans l'enfance, de pédocriminalité notamment, et qui témoignent d'ailleurs qu'elles recherchent cette pornographie violente pour se remettre dans cet état dissociatif d'anesthésie émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et on voit aussi que les filles qui sont très grosses consommatrices de pornographie ont pour la plupart, il y a une surreprésentation des victimes de violences pédocriminelles.
Arthur Vatou, dans vos entretiens, vous avez rencontré également des personnes qui consommaient énormément de pornographie plusieurs fois par jour. Est-ce qu'elles se sentent eux-mêmes dans un état d'addiction ?
Alors non, on n'a pas rencontré directement ces profils de jeunes ou d'adolescents, ne serait-ce que parce qu'on faisait notre enquête en fait à la sortie de l'adolescence, une enquête rétrospective sur les pratiques adolescentes, mais à la sortie de l'adolescence. Mais on avait ces récits, effectivement, de moments de consultation frénétique, etc. Alors, un peu plus chez les garçons que chez les filles, c'était malgré tout rare du côté des filles. Mais, bien sûr, c'est possible, ça existe. Encore une fois, il faut aussi resituer les choses de manière un peu globale, et c'est pas pour minorer quoi que ce soit, ni minorer ses addictions, et je suis pas compétent sur les enjeux de psychotrauma, enfin c'est pas mon domaine de recherche, hein. Mais si on regarde les chiffres de l'ARCOM, par exemple, les chiffres qui ont été publiés en 2023 et qui sont intéressants parce qu'en fait ils donnent un petit peu de dynamique sur plusieurs années de la consultation des sites pour adultes, des contenus pour adultes par les jeunes. Alors on voit une augmentation, hein, de la fréquentation, mais on voit aussi que si on regarde la moyenne mensuelle, alors tout jeune confondu. Donc voilà, il y en a qui regardent pas du tout, il y en a qui regardent énormément. Donc voilà, mais on est autour d'une heure par mois pour les 11-13 ans, par exemple. Donc juste, c'est important de le dire aussi pour pas avoir cette impression parfois et pas considérer les adolescents comme étant toutes et tous des utilisateurs frénétiques de ces plateformes, des visionneurs de pornographie. Et juste, j'aime bien rappeler à propos de ces chiffres-là que les plus gros consommateurs en temps et en fréquence sont les jeunes hommes, enfin les hommes plutôt, de 35 à 49 ans.
Donc les adultes. La loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a été votée le 21 mai 2024. Elle interdit l'affichage sur écran de contenu pornographique sans que la majorité de l'utilisateur n'ait été contrôlée par un système robuste, protecteur, en double anonymat. Le double anonymat, je rappelle, cela signifie que l'âge de la personne est contrôlé, mais sans révéler son identité. Céline Pic, est-ce que pour vous, c'est une loi qui va dans le bon sens ?
Bien sûr, c'est une loi qui va dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'elle soit appliquée. C'est toute la difficulté, puisque il y a un certain nombre... Alors la première loi, il faudra rappeler, hein, la première loi qui interdit l'exposition des mineurs à la pornographie, elle date de 1994. Hein. Ensuite, il y avait juste un petit pop-up qui disait « Est-ce que vous avez plus de 18 ans ?» Oui, non. Et ensuite, le législateur est revenu à deux reprises, d'abord en 2020, ensuite en 2024, pour dire qu'il fallait un vrai contrôle, avec effectivement un site tiers, pour ne pas donner ses données personnelles aux sites pornographiques. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs du numérique qui peuvent contrôler et donner le feu vert aux sites pornographiques, parce que les consommateurs ne veulent pas donner leurs données personnelles aux sites. Donc, tout est là, c'est conforme au RGPD, la loi est votée, maintenant il faut que la loi s'applique, sauf que l'industrie pornographique ne veut pas appliquer la loi, préfère être bloquée aujourd'hui, et promouvoir en particulier le contournement de la loi, et malheureusement ils sont aidés par le PDG de Free, Xavier Niel, qui vient cette semaine d'inclure dans le forfait Free le VPN par défaut. Donc le VPN par défaut.
Le VPN, on rappelle ce que c'est, hein, c'est, alors, un, le VPN, c'est ce qui permet de changer de localisation. Et
ça permet d'anonymiser l'adresse IP. Du coup, l'adresse IP n'est plus localisée en France. Et donc tous les sites qui ont été bloqués par l'institution policière ou judiciaire, hein, donc qui ont été déclarés illicites et qui sont bloqués, ne sont plus bloqués. Donc ça concerne les sites pornographiques qui ne mettent pas en place, qui refusent de mettre en place l'âge, mais ça concerne également les sites de pédopornographie, les sites comme Coco, enfin tous les sites illicites qui sont bloqués aujourd'hui en France, à partir du moment où vous utilisez ça, et là vraiment je suis extrêmement en colère parce que les géants du numérique aujourd'hui jouent le jeu de cette industrie pornographique qui ne veut pas respecter la loi, et Xavier Niel aujourd'hui est responsable, et je vous le dis franchement, complice des méthodes illicites de l'industrie pornographique. Et ce serait bien qu'on lui demande des comptes, parce qu'il met à terre toute possibilité de régulation du numérique. Ça, il s'agit de la pornographie, mais il s'agit aussi de tous les discours de haine en ligne, sur lesquels on devrait être mobilisé, vu l'augmentation, vu l'explosion aujourd'hui de discours extrémistes, qu'ils soient racistes, antisémites, islamophobes, sexistes. On a cette haine en ligne. Et on a aujourd'hui des géants du numérique, Xavier Niel le premier, qui met par terre toute possibilité de régulation du numérique. Je pèse mes mots, cette attitude est totalement irresponsable.
L'autre actualité en cette rentrée scolaire 2025, c'est le fait que l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité devient une matière scolaire à part entière. Arthur Vuattoux, là aussi on se doute que cela va dans le bon sens, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Qu'est-ce que cela signifie, une discipline, une matière à part entière ?
C'est une bonne question parce que on verra sans doute dans quelques années. Et puis en sociologie, ben voilà, on attend de voir ce que donnent les pratiques au-delà de ce qu'est un programme de la politique publique qui l'impulse. C'est sans doute très bien, effectivement, de formaliser les choses. Alors, on voit quand même, cela dit, dès à présent, que, par exemple, une partie très importante de l'enseignement privé, cherche à s'émanciper, en fait, d'emblée, de ce programme, à expliquer qu'il y a les spécificités liées à l'enseignement catholique, etc., notamment. Donc, je pense que, voilà, on est déjà, en fait, dans un conflit, on est déjà dans la tension. Il y a l'ensemble aussi des actions de parents, en partie associées à l'extrême droite et à d'autres acteurs, pour essayer justement là de mettre la pression sur ces enseignements-là.
Vous parlez notamment des parents vigilants, j'imagine.
Voilà, par exemple, qui ont essayé de désinformer un peu massivement sur l'éducation à la sexualité. Donc je pense que voilà, on verra, le rapport de force va se jouer en fait dans les années à venir, et on a vu dans d'autres pays que ça pouvait aller parfois très loin en fait, ce rapport de force, jusqu'à en fait complètement mettre à terre une politique publique qui, au départ, était intéressante. Ensuite, je pense qu'il faut aussi regarder la chaîne des acteurs susceptibles, en fait, de faire de l'éducation à la sexualité. Et on a beaucoup affaibli, dans ces dernières années, les associations, notamment. Et nous, quand on interroge des jeunes, on voit bien que ils ont envie que l'école leur dise des choses. Ils ont envie d'avoir des adultes ressources, etc. Mais ils ont aussi envie d'avoir des ressources au bon moment, au moment où ils ont besoin d'aller voir, d'aller... Et en fait, on a beaucoup affaibli aussi les associations, le planning familial et d'autres, susceptibles de faire de l'éducation à la sexualité, de recevoir des jeunes en consultation en dehors de l'école. Et ça, je pense que c'est un problème global, c'est la question des moyens, quoi. Est-ce qu'on met les moyens dans la prohibition, dans les enjeux numériques? Et peut-être que c'est très bien et peut-être que ça marchera. Ou est-ce qu'on les met aussi dans le soutien aux acteurs de l'éducation à la sexualité?
Un mot, Céline, tout sur le rapport de force entre l'industrie pornographique et ce que peut effectivement l'école au quotidien dans l'information qu'elle va prodiguer aux élèves. Est-ce que le rapport de force n'est pas totalement en faveur de la pornographie? En une minute.
Alors, pour répondre, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une politique forte de rapports de force avec ces sites qui sont dans l'illégalité. On veut juste simplement que la loi soit appliquée et en même temps faire de l'éducation à la vie sexuelle et affective et être extrêmement ferme sur la nécessité effectivement de financer les associations féministes qui interviennent dans les écoles et qui vont parler sexualité aux jeunes, consentement, sexualité respectueuse, non sexiste, non raciste, non pédocriminelle, c'est-à-dire l'inverse de la pornographie.
Et d'un mot sur le rapport de force alors, sur le rapport de force entre l'industrie pornographique et l'école, ce qu'elle peut faire effectivement justement dans cette éducation?
Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut effectivement rendre effective le contrôle d'âge, de la même façon qu'on interdit la vente d'alcool, la vente de tabac aux mineurs, on doit interdire l'exposition des mineurs à la pornographie. Alors bien sûr, il y en aura toujours qui contourneront cette interdiction, mais l'exposition sera moindre, et ce sera toujours ça de moins à déconstruire pendant les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est quand même mieux que devoir reprendre et redéconstruire tout un discours pornographique qui aura imprégner leur représentation de la sexualité. Autant partir sur quelque chose d'un peu plus sain, effectivement, en termes de compréhension des enjeux sexuels.
Merci beaucoup à tous les deux de ce débat. Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, co-autrice du rapport intitulé « Pornocriminalité, met-on fin à l'impunité de l'industrie pornographique ?» et Arthur Vuattoux, sociologue, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, co-auteur avec Yael Amselem-Mingui du livre intitulé « Les jeunes, la sexualité et Internet », un ouvrage paru en 2020 aux éditions Les Pérégrines. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Mathias Mégis, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey. À suivre après le journal, taxer les plus fortunés, histoire d'une revendication sociale. On en discutera avec l'historien Nicolas Delandande.